have the worst opinion of Hillary Clinton as well.
J'ai une très mauvaise opinion d'Hillary Clinton. Elle est arrogante, suffisante, froide, et elle est corrompue. Et l'autre, c'est un clown. Donald Trump, il est incapable de faire le job.
Je ne sais pas encore pour qui réellement je vais voter, parce que je trouve qu'il n'y a pas de bon choix dans le pays. Je trouve que choisir entre ces deux candidats, c'est comme choisir entre deux diables. Ni l'un ni l'autre n'est bon, alors il faut choisir le moins mauvais.
Les deux candidats ont en commun d'être mal aimés. Les gens ne leur font pas confiance.
Elle est cérébrale, elle veut tout maîtriser, elle connaît à fond ses dossiers, mais elle manque d'empathie avec les électeurs. Trop rigide, trop terne, dit-on. Hillary Clinton ne susciterait pas l'enthousiasme des Américains. Certains la pensent malhonnête, embourbée qu'elle est dans le scandale de sa messagerie personnelle utilisée alors qu'elle était secrétaire d'État et dont des milliers de mails auraient été effacés. L'ancienne première dame, celle qu'on a toujours vue au sommet du pouvoir aux côtés de son mari Bill, il y a déjà plus de 20 ans, sénatrice ensuite à New York et puis parcourant le monde pour Barack Obama. Hillary Clinton donc est longtemps restée la favorite des sondages. Elle s'appuie sur un staff important, plus de 700 personnes qui sillonnent les États-Unis depuis des mois. Seulement, la campagne présidentielle américaine est hors norme et le républicain, son challenger, Donald Trump, totalement imprévisible. Lui ose attaquer comme jamais l'establishment. Il promet de chasser les migrants délinquants, d'ériger un mur avec le Mexique, de rendre son faste à l'Amérique et il séduit, remonte dans les intentions de vote. Il lui faudra encore, cela dit, élargir sa base électorale, convaincre les hispaniques notamment, les noirs et les femmes plutôt tentées par sa rivale démocrate. Le mania s'accroche, en tout cas il veut y croire, surtout dans des états clés comme la Floride où nous partons ce soir, le vote hispanique y pèse lourd et c'est l'un des swing states qui peut basculer côté démocrate comme républicain. Clinton-Trump, deux mal-aimés vers la Maison-Blanche, c'est un reportage signé Nadine Epstein. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous accueillons ce soir deux personnes. D'abord François Durepère, pardon, qui est historien. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes maître de conférences et enseigné à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes aussi l'auteur, je vais citer un ouvrage en lien direct, de l'histoire des États-Unis paru aux éditions Presse universitaire de France dans la collection Que sais-je en 2013 et que vous venez de rééditer. Et puis également avec Kevin Pissot. Vous venez de publier Le Petit Trump illustré par l'exemple aux éditions Nouveau Monde. Et puis à vos côtés, Soufiane Al-Sabag, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, vous êtes collaborateur au Huffington Post et vous avez publié, alors c'était en 2012 pendant la dernière campagne électorale, La Nouvelle Droite américaine. À l'époque, vous travaillez sur l'émergence du Tea Party. On va avoir l'occasion d'en reparler forcément. Et nous sommes avec Nadine Epstein. Bonsoir Nadine.
Bonsoir.
Vous êtes revenue de Floride aux États-Unis. Alors c'est, je le disais tout à l'heure, l'un des swing States, un des États qui peut basculer, qui va envoyer 29 grands électeurs au comité qui élira le président, le prochain président américain. Et vous avez senti sur place un électorat très divisé, Nadine.
Oui, la Floride est un État pivot. Vous avez 38% des électeurs qui sont affiliés au Parti démocrate, 36% au Parti républicain, 29% qui sont indépendants. Et ces indépendants votent comme bon ensemble au dernier moment, y compris pour les outsiders. Et cette année, il y en a deux, l'écologiste Jill Stein et le libertarien Gary Johnson. Bien qu'Hillary Clinton et Donald Trump tiennent meeting et se déplacent dans une partie du pays, la campagne ne fait que commencer, il y a encore deux mois. Et le premier élément qui va donner le ton, ce sera le premier débat télévisé, le 26 septembre dans l'État de New York, puis il y en aura deux autres. Et bien sûr, ce tête-à-tête va être suivi par quasi toute l'Amérique. Beaucoup se demandent comment Trump va se comporter. Vous l'avez dit, une des caractéristiques de cette élection est que les deux candidats sont impopulaires à l'intérieur de leur parti. Question, par exemple, que vont faire les électeurs de Bernie Sanders? Du côté des Républicains, même chose. De nombreux cadres ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas pour le milliardaire, mais les électeurs, eux, que feront-ils? Et notamment les indécis qui constituent aujourd'hui la majorité. La Floride apparaît aujourd'hui très divisée, tant les candidats sont clivants, et c'est un État où l'immigration est très forte, en particulier les Latinos. D'ailleurs, l'espagnol est devenu langue officielle comme l'anglais.
Et on va partir justement tout de suite dans une université, Nadine, en Floride, une université où on parle beaucoup l'espagnol. Dans cette université nationale en Floride, vous avez, Nadine, pu rencontrer d'abord un professeur d'art qui se nomme Monsieur Bale.
Alors, FIU, nous avons une grande histoire avec les présidentielles.
Récemment, Hillary Clinton a présenté Kane comme son vice-président ici. Et en 2000, c'est George W. Bush qui a lancé sa campagne électorale pour la présidentielle du campus de FIU.
Et là, Donald Trump n'est pas venu ?
Non, pas encore.
Mais il doit venir.
Oui, et Rubio a été professeur ici aussi.
Est-ce que c'est une université qui est politisée ?
Non, pas du tout. Bien sûr, il y a des groupes, à l'intérieur, des groupes d'étudiants qui sont très politisés, mais en fait, premièrement, c'est contre la loi, dans l'État de la Floride, pour moi, en tant que professeur, de dire à mes étudiants de voter pour quelqu'un. Je ne peux pas dire ça dans la classe. Par contre, je peux parler de tous les topics, de tous les sujets, oui. Attendez, ma classe, je ne sais pas où elle est, c'est comme c'est le premier jour.
John Bailey, comme la plupart des professeurs de FIU, de l'Université internationale de Floride, pas tous bien sûr, mais une large partie d'entre eux se rangent derrière le Parti démocrate.
Alfredo Garcia, professeur de sociologie aux Florida International University, au Miami, Florida.
Comment vous avez trouvé la classe?
Je pense que très bien. Et tous les étudiants en cette classe sont très enthousiastiques. C'est excellent, je pense. Ils vont voter parce que les jeunes, je pense entre 18 et le 25 ans, ils ne votent pas. C'est terrible, mais c'est vrai. Un autre point, je pense que c'est beaucoup de Facebook et beaucoup d'Instagram, mais en Miami, en ce moment, c'est très mélangé. Ouais.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez des deux candidats?
Je suis très triste parce que je ne pense que Donald Trump est un candidat. Je ne pense qu'il devrait pas être ici. Et je pense qu'il est une joke.
Une blague, ouais. Une plaisanterie.
Ouais.
Vous ne prenez pas Trump au sérieux?
Oui, je ne pense pas qu'il est sérieux. C'est comme un show, un événement. Quand il parle beaucoup, mais il ne dit de rien. Il est très intelligent, je pense. Mais intelligent au niveau de les sentiments, mais pas de l'intellectuel.
Mais vous pensez qu'il peut gagner?
Oui, je pense qu'il peut gagner.
Et vous, vous savez pour qui vous allez voter?
Oui, Hillary. Oui, je voterai pour Hillary. Je ne l'aime pas, mais je pense qu'elle est incroyable, très intelligente, très capable, très. Donc, je voterai pour Hillary.
Dans cette classe spéciale, meilleurs étudiants de chaque discipline, réunis en un collège d'honneur, les jeunes ont entre 18 et 19 ans et sont donc de nouveaux électeurs qui, en novembre, voteront pour la première fois. Plus ou moins intéressés par la politique, rares sont celles et ceux qui savent dès aujourd'hui qui ils vont choisir.
Rebecca Kahn. I'm a biology major.
Je m'appelle Rebecca Kahn, je suis étudiante en biologie et c'est la première fois que je vais voter en novembre. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore pour qui réellement je vais voter parce que je trouve qu'il n'y a pas de bon choix dans le pays. Alors, comment je vais me décider? J'espère qu'à l'approche de la date des élections, j'en saurai davantage sur les deux candidats pour pouvoir réellement choisir. Je vais en discuter avec mes amis, avec mon entourage, avec la fac. Pour me faire ma propre idée. Et peut-être aussi que je vais suivre le choix de ma famille. Mes parents vont voter pour Donald Trump. Mais à vrai dire, je trouve que choisir entre ces deux candidats, c'est comme choisir entre deux diables. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Alors il faut choisir le moins mauvais, car c'est important de voter.
Je m'appelle Sean. J'ai 22 ans. J'étudie en relations publiques à l'Université internationale de Floride. C'est ma dernière semestre. Je suis vraiment content avec Trump. Je pense que Trump représente les Américains. Il est vraiment...
Tu penses que c'est un candidat sérieux?
Très sérieux. Mes deux parents étaient démocrates. Mais je pense que, en rétrospect, c'est parce qu'ils ne savaient pas c'était vraiment quoi la plateforme républicaine.
Aux dernières élections, est-ce que tu as voté Obama?
Oui, j'ai voté pour Obama parce que Mitt Romney, vu quand même qu'il était un républicain, n'a pas nécessairement répondu à mes besoins dans une présidente que je voulais. Alors, je pensais que Obama, même s'il n'était pas parfait, je pensais qu'il était plus prêt pour changer les choses qu'il fallait changer que Mitt Romney. Mais là, je pense que Hillary Clinton va prendre la legacy d'Obama et elle va le mettre ailleurs, elle va le pousser ailleurs, ça va aller trop loin. Je pense que ça prend quelqu'un comme Trump pour faire un bon résumé de tout et de continuer dans une autre direction, une direction qui convient aux besoins d'aujourd'hui. Juste sur le côté des taxes, business de famille, pour moi, c'est un choix facile d'aller pour Donald Trump parce que les gens en business savent que le moins que vous payez en taxes, le plus que vous pouvez monter votre business, engager du monde pour rentrer, pour travailler, acheter des vendeurs au travers les États-Unis et au travers le monde, ça commence avec les taxes. Et je pense que Donald Trump bat pour les gens, les entrepreneurs qui essaient de faire leur way in the world.
Mais tu penses qu'on dirige un pays comme on gère une entreprise?
I believe so.
Tu penses qu'il va vraiment gagner l'élection?
I hope so.
Située sur la côte occidentale de la Floride, à 300 km de Miami, la ville de Tampa. Dimanche, en fin de journée, Georgia, Christine, Christopher, Paul, Kathleen, Rachel et Bailey se retrouvent comme beaucoup de jeunes dans un steak and shake, un fast-food réputé pour ses milkshakes et ses burgers. Quand la conversation arrive sur les élections, les avis sont très partagés. Deux vont voter Trump, un ne sait pas, deux pour Clinton et un pour un indépendant.
C'est assez fascinant de voir le peu de personnes dans ce pays qui aiment vraiment Donald Trump ou qui apprécient réellement Hillary Clinton. Les gens sont obligés de se dire, bon, c'est ce qu'on a, mais ils sont très divisés.
Je suis adhérente au Parti démocrate et je vais voter pour Hillary. Je pense que c'est la seule option que j'ai parce que voter pour un troisième candidat, c'est un bulletin de perdu. Je serais curieuse de voir si les militants de Bernie Sanders vont voter pour Hillary.
Ils vont probablement se tourner vers Jill Stein et Gary Johnson. Moi, j'étais bénévole dans la campagne de Clinton. Je pense que les démocrates sont les plus démocratiques. Mais j'ai soutenu Bernie Sanders car j'ai trouvé qu'il défendait de très bonnes idées. Il voulait amener le pays vers une voie plus progressiste qu'on devrait suivre. Mais maintenant, je vais soutenir Hillary et son parti, car les sujets que défendent les démocrates sont plus près de mes convictions et de ce que je pense. Les républicains ont d'autres valeurs et leurs candidats, je ne pense pas qu'ils soient bons pour le pays. Quant aux autres candidats, les indépendants, j'estime qu'ils ne peuvent pas empêcher Hillary d'être élu. On ne comprend pas très bien Jill Stein et ses principes. Et ceux qui soutiennent Gary Johnson, je les respecte, je peux comprendre leur choix, mais moi, je choisis Hillary.
Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais impossible pour moi de soutenir l'un des deux grands candidats. Ma liste de reproches contre eux est vraiment longue. Ça ne veut pas dire pour autant que j'irai choisir Gary Johnson.
Ces jeunes sont comme mes enfants, confie Suzanne McManus, qui les a tous invités. Éminente professeure en sciences politiques de l'Université de Floride du Sud, Suzanne McManus est aussi analyste politique pour ABC et auteure de plusieurs ouvrages. Pourquoi l'État de Floride est très important pour cette élection ?
C'est vraiment un grand État, divisé entre républicains et démocrates. De plus, vous avez une large frange de la population qui n'est ni l'un ni l'autre, ce sont des indépendants. À chaque élection, la Floride a été déterminante. C'est un État clé, un État charnière. On dit, là où va la Floride, là va la nation. Ce n'est plus vrai que la Floride est un État retraité. C'est fini ça. 47% de la population est active ou étudiante, c'est-à-dire qu'elle a moins de 60 ans. C'est un vrai changement marquant qui oblige chaque candidat à revoir son campagne en Floride. Quand il vient ici, ils ne doivent pas uniquement parler des problèmes sociaux, de pensions, d'assurance maladie, car ça sera une erreur d'oublier cette partie de l'électorat qui est une jeune et son vote est plus qu'important.
Qu'est-ce que vous pensez des deux candidats?
Généralement, les gens me demandent pourquoi, dans un pays comme l'Amérique, on a de si mauvais candidats. Ce qui est intéressant cette année, c'est que les deux candidats ont en commun d'être mal aimés. Les gens ne leur font pas confiance. Près d'une personne sur deux se méfie de Donald Trump et de Hillary Clinton. D'un côté, vous avez un candidat qui fait tout ce qu'il ne doit pas faire. Il représente l'un des deux des grands partis, c'est Donald Trump. C'est un homme qui fait du spectacle. Il s'est mis en représentation, d'ailleurs, il vient de là. C'était une vedette de la télé-réalité. Et il s'en sert. Il sait très bien comment fonctionnent les médias et ses shows. Il connaît parfaitement le public de ses émissions. Des gens sans grand niveau intellectuel, de simples travailleurs qui, après une journée fatigante, rentrent à la maison le soir et se mettent devant le petit écran. Et Trump a bien compris cela, il en joue. Hillary Clinton, c'est autre chose. Elle met en avant le fait d'être une femme et deviendrait ainsi la première femme présidente des États-Unis. Du jamais vu, de l'inédit, comme suite logique, après avoir choisi première présidente noire, Barack Obama. Et elle mise sur le vote des femmes qui verraient la bonne manière de donner plus de place et de visibilité aux femmes qui travaillent. Mais si beaucoup des démocrates l'appréciaient, elle ne fait pas l'unanimité. Une partie du l'électorat démocrate la déteste pour plusieurs raisons aussi vraies qu'erronées. À part cela, vous avez aussi une frange de population qui s'en fiche et de Trump et de Clinton. À quoi s'ajoutent cette année deux outsiders, l'écologiste Jill Stein et le libertarien Gary Johnson. Tout d'un coup, ils sont émergés dans cette campagne, ils grimpent dans les sondages. De quoi inquiéter Trump et Clinton?
Avec 240 jours de soleil par an, la Floride est surnommée Sunshine State, même si ce climat tropical signifie aussi les tempêtes et cyclones, comme il y a quelques jours Hermine. Mais il y fait bon vivre, surtout pour les retraités. George, 68 ans, originaire de New York, s'est installé avec un copain à Melbourne, au sud de Cap Canaveral, sur la côte est de la Floride. Et à propos des élections, il est impitoyable avec Hillary Clinton.
Vous ne pouvez pas être ministre des Affaires étrangères et vous permettre de prendre de l'argent des caisses de l'État et l'utiliser pour payer des armes et donner des gages à d'autres pays. Et c'est ce qui s'est passé à Benghazi. Et même quand il y a eu l'attaque à Benghazi, on ne savait même pas où elle était. Trump, c'est une grande gueule. Il raconte beaucoup d'histoires. Mais je ne l'ai jamais vu détourner des fonds, ni corrompre d'autres États. Les nouvelles, nos informations sont toutes orientées à gauche. Même Fox News, qu'on dit républicain, à droite, ce n'est pas vrai. Si vous regardez bien, il roule pour Hillary. Quoi qu'on nous raconte, l'histoire est incomplète et vous n'êtes pas bien informé. Je ne crois pas aux candidats venus de l'establishment. Si on a un Bush ou un Clinton à la Maison-Blanche, c'est mauvais pour tout et pour tout le monde. Pour moi, ces politiciens sont corrompus et ce sont des voleurs. Oui, j'aurais souhaité qu'il y ait quelqu'un d'autre que ces deux candidats-là. Mais je préfère avoir quelqu'un qui travaille comme homme d'affaires qu'une politicienne qui vit de la politique.
Cet épisode de Benghazi en Libye, attaque terroriste qui a tué 4 Américains dont l'ambassadeur, suivi quelques heures plus tard d'une seconde attaque meurtrière, est devenu un boulet pour Hillary Clinton. Alors, secrétaire d'État, elle a dû reconnaître des manquements à la sécurité.
Honestly, probably better than Hillary Clinton. Hillary did a lot of stuff on
Joe, un ancien militaire de la guerre du Vietnam, grièvement blessé à l'épaule, vit aujourd'hui dans la rue. Mike, envoyé en Afghanistan puis en Arabie Saoudite, est réinséré dans la vie civile. Tous deux sont catégoriques. En tant que vétérans, nous n'avons plus confiance en Hillary. Nous sommes profondément attachés aux règles militaires républicaines et donc on va voter sans hésitation pour Trump.
About her private email server, and then accusations of so-called pay for play at the Clinton Foundation, or at least a pay for access. 8 years ago, after Barack Obama was first elected, members of his
team. C'est entre deux avions pour Mexico que l'armateur Daniel Berébi m'a reçu chez lui à Miami, son lieu de résidence. Sa société de ferry a obtenu l'exclusivité des transports maritimes entre Cuba et la Floride, le fret et les passagers, même si la Havane n'a pas encore décidé quand elle permettrait la venue des bateaux. Américain depuis 2004, après avoir quitté la France, Daniel Berébi a entièrement confiance en Donald Trump. Comment se présentent les élections du mois de novembre, les élections présidentielles ?
Elles sont très intéressantes. En fait, de tous les sondages qu'on peut voir, il y a deux candidats principaux qui ne semblent pas être aimés par la majorité des Américains. Donc c'est assez amusant. Trump sort un peu des dogmes du politicien. Hillary a le désavantage d'être sûrement une femme et la femme de son mari. Elle a gagné un peu de façon déloyale, puisqu'on sait que le parti l'a avantagé par rapport à Sanders. Cela a valu la démission de ma copine Debbie Wasserman. Donc, c'est difficile.
Pourquoi vous dites un désavantage d'être une femme ?
Parce qu'il n'y a jamais eu de président femme aux États-Unis. C'est quelque chose de nouveau. Je pense que c'est un désavantage. Les gens n'aiment pas la nouveauté.
Mais là, j'entends que souvent, les gens veulent un changement.
Ils veulent un changement. C'est pour ça que aussi Trump a été élu haut la main par le Parti républicain. Ou a eu les votes des républicains, alors qu'il partait largement des favoris.
Ça ne vous a pas étonné ?
Pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. Je savais que... Parce que les gens, comme vous dites, ont besoin du changement, ont besoin de folie, ont compris que le monde a changé, que les signes d'un changement sont également au niveau politique. On a besoin de gens qui ne sont plus conformistes, qui ne sont plus sortis du moule politique, mais qui viennent un peu d'autres horizons. On le voit aux États-Unis, on voit en France, dans l'actualité, Macron, qui a 38 ans, qui est complètement non issu du sérail politique. Et
vous pensez que Donald Trump a les compétences pour être président ?
Le président n'a pas besoin de compétences et son équipe derrière. On oublie que les États-Unis ont eu un excellent président, Reagan, qui était un acteur de cinéma. C'est l'équipe qui est derrière, ce n'est pas le président.
Et lui, quelles sont les qualités à vos yeux ? Quelles qualités il a ?
Les qualités de Trump, c'est qu'il veut changer les choses, qu'il est anticonformiste, qu'il a compris que la position des États-Unis était menacée par plein d'événements internationaux, et il veut remettre les États-Unis au centre des débats et en faire une vraie puissance politique qui se fasse respecter dans le monde.
Mais les États-Unis restent la grande première puissance du monde ?
Ils restent, c'est pas tellement sûr. C'est pas tellement sûr qu'ils restent la grande puissance du monde. Ils sont un peu englués dans beaucoup de débats. Et c'est sûrement la première puissance du monde, et la Chine qui l'a menacé pendant longtemps a l'air d'avoir des difficultés de prendre la première place. Mais sa position est, je pense, challengée de plus en plus. Donc il faut quelqu'un comme Reagan, un esprit pionnier, il faut revenir à l'esprit pionnier américain qui a fait la force de l'Amérique.
Mais quelle idée progressiste Donald Trump avance-t-il ?
C'est pas, je parle pas des idées progressives, je parle des... Son point principal, c'est de faire de l'Amérique la grande puissance à nouveau, se faire respecter. Je pense que les grandes puissances aujourd'hui dans le monde ne se font plus respecter, que ce soit les États-Unis, la France, peut-être l'Angleterre, elle est à part, c'est une île un peu séparée, mais les grandes puissances mondiales ne se font plus respecter. On a un peu laissé le contrôle du monde à des intérêts privés ou de certains États, le pétrole a dirigé le monde, la religion a dirigé le monde. Je pense que Trump a compris tout ça, il veut remettre l'Amérique dans sa lancée, dans sa puissance, ce qui a fait de l'Amérique le grand pays qu'on connaît, la découverte de le premier homme sur la Lune, les grandes avancées technologiques, Internet, etc. Je pense que Trump est bien parti pour ça.
Donc, à vos yeux, Trump n'est pas l'homme qu'on décrit d'un homme qui est un peu un clown, qui fait le show, qui est raciste.
S'il apparaît comme ça, ça voudrait dire que des dizaines de millions d'Américains croient en quelqu'un qui est un clown, qui est raciste. Et donc, l'Amérique ne devrait pas avoir une première place dans le monde, si c'est ce qu'on pense. Non, il a sa façon de s'exprimer, qui est, je répète, anticonformiste. Et c'est ce qui semble plaire à beaucoup d'Américains.
Manwood, quartier de Miami, qui fait parler de lui en ce moment en raison de l'apparition de Zika, est aussi un quartier branché par son street art, l'art urbain, graffiti, pochoir, bombing, tag, qui attire donc beaucoup de visiteurs pour le grand bonheur de Jorge, un vendeur ambulant venu d'Uruguay en 2001.
Hot dog, how much it cost?
$3.
And one hamburger?
$4. My son come first.
Mon fils est venu le premier en Amérique.
He's called me, hey, dad.
Et un jour, il m'a appelé pour me dire, allez papa, viens ici.
I give my chance.
Et je suis venu tenter ma chance, oui.
In America, you have every opportunity for jobs.
En Amérique, on te donne vraiment l'opportunité pour le travail.
When I come here,
quand je suis arrivé ici, j'ai vendu des journaux,
corner,
là, au coin de la rue, pendant un an. Et je vivais, je louais un appart,
I take my car,
une voiture.
I sell water,
j'ai aussi vendu des bouteilles d'eau, des légumes,
whatever.
Peu importe quoi.
Yes, yes.
Oui, les gens peuvent trouver du travail facilement s'ils le veulent.
You don't work because you know,
ceux qui ne bossent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de travailler. On peut faire toutes sortes de boulots.
Every jobs. Yeah.
And now are you American?
I'm wait for my citizenship.
Oui, je viens d'obtenir la nationalité. Ça fait 15 ans maintenant que je vis ici.
I take my citizenship now.
Je viens de recevoir mes papiers, là, il y a juste quelques semaines.
Ago, yeah.
So you are going to vote?
Yes.
Oui, je vais aller voter.
I'm not sure.
Mais je ne sais pas encore pour qui. Je ne suis pas sûr de savoir qui choisir.
Bon, Trump is maybe crazy.
Trump paraît quand même fou.
Every politic have the
tous les politiciens veulent faire parler d'eux dans la presse.
Maybe
peut-être finalement entre les deux,
Hillary
est un peu moins mauvaise.
Not no mala, no. That's what.
Avec plus de 20 millions d'habitants, la Floride est le troisième État le plus peuplé des États-Unis. Elle se distingue par un nombre croissant d'immigrants venus d'Amérique latine, mais aussi d'Europe ou d'Asie. L'immigration est un sujet important de cette campagne électorale. Il y a dans le pays entre 11 et 20 millions d'illégaux. Donald Trump veut faire construire un mur au Mexique, Clinton est favorable à plus de régularisation des étrangers. Catherine Hénin-Clark, avocate, à Orlando, spécialisée dans les questions d'immigration.
La Floride, c'est faite d'immigrants. Enfin, l'Amérique entière est faite d'immigrants. Mais la Floride est faite d'immigrants plus récents, si vous voulez. Donc, ils sont plus sensibles sur l'élément d'immigration. Parce que chaque Floridien, de manière générale, connaît quelqu'un qui était un immigrant, ou bien illégal, ou bien légal. Ou ils sont eux-mêmes d'une souche d'immigrants. Donc, ils sont plus sensibles sur une matière de, d'une part, résoudre le problème d'immigration illégale, d'autre part, encourager l'immigration légale. Donc, le candidat qui va faire cette présentation, qui satisferait leur désir et leur sensibilité, aura tendance à gagner.
Est-ce que les événements d'il y a deux mois à Orlando, la tuerie, est-ce que ça a eu une incidence sur la campagne?
Oui, parce qu'en fait, Donald Trump a fait des réflexions qui ont été considérées très déplacées, pour ne pas dire désobligeantes, parce que quand il y a des événements comme ça, c'est comme en France, d'un seul coup, il y a une solidarité énorme des personnes. C'est plus une matière de politique, c'est plus une matière de tendance. C'est une matière où on souffre ensemble. Et quand un politicien est interrogé sur un événement si tragique, de manière générale, ils joignent la solidarité, ils joignent la douleur. Alors que Donald Trump, d'un seul coup, lui, au lieu de faire la même chose, il a dit « Ah, je vous avais dit que c'est quelque chose comme ça allait se passer. » Donc, ça a été très, très mal vu. Donc, il a perdu beaucoup d'attirance à cet égard. Ce n'était pas le genre de chose à dire.
Moi, je suis Kristen Rosen Gonzalez, commissioner of Miami. Et aussi, je suis une professeure à l'université Miami-Dade College, dans la communication.
Vous participez à la campagne électorale?
Oui, toujours. J'aime beaucoup la démocratie et la politique. Et je crois que ce sont les deux personnalités plus que la politique. Parce qu'en pensant à la politique, il n'y a personne entre les deux candidats qui représente la nouvelle États-Unis qui est assez diverse comme on voit maintenant. On a une population qui est très distincte.
Comment vous expliquez que Donald Trump soit aujourd'hui le candidat contre Hillary Clinton?
Oui, pour moi, c'est une chose bizarre. Parce qu'il y a plus de gens qui aiment les gens blancs, les Américains, que les Hispaniques. Je crois que c'est ça. Et en Tallahassee, notre capitale ici en Floride, tu verras qu'il y a beaucoup de républicains qui n'aiment pas Miami-Dade County au sud. C'est différent. Ils nous appellent the Dark County. Les noirs là-bas au sud. Il y a beaucoup de gens qui ont marre de la politique, de la corruption, les politiciens qui ne les écoutent pas. J'étais avec Hillary au début, parce qu'elle est une femme, j'aimerais bien voir une femme présidente aux États-Unis, mais je vois les gens qui font la campagne pour Hillary ici, organiser les démocrates, et they're not nice people. Ils sont pas ils sont des gens corrupts qui achètent les votes aussi. They're not just people. Ils sont pas justes.
Ça veut dire que toi, tu ne vas pas voter pour Hillary?
Je ne sais plus.
Tu hésites?
J'hésite maintenant. Ils achètent les syndicats. Ils achètent les gens, you know, qui ont pas de l'argent. It's not right.
Donc quand Donald Trump il dit que le camp de Hillary Clinton est corrompu, il dit la vérité?
Oui. La politique, c'est corrompu. Mais c'est pas juste Hillary Clinton, c'est pas juste Donald Trump, c'est le système. Il faut changer le système. Parce qu'on voit les indépendants qui ont marre. Et maintenant, il y a une autre candidate qui s'appelle Jill Stein. Elle a 6% de la population aux États-Unis. C'est incroyable. Elle n'a rien
Nader.
Du tout de l'argent. Oui, comme Ralph Nader. Mais plus maintenant, parce que les gens ont marre. Tu sais, parce que tu vois les gens de génération Z et aussi... comment ça s'appelle, les millennials, ils vont plus, ils étaient tous avec Bernie Sanders. Bernie Sanders, il vraiment représentait la change du système. Il voulait rompre avec le système. C'est la seule chose que j'admire de Donald Trump, c'est que lui, il change jamais. Il dit des atrocités, tras atrocités, mais c'est, au moins, c'est son vérité. Avec Hillary, on ne sait jamais. Parfois, je la vois et c'est la même chose de toujours. Clinton, les Bush, les...
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Donald Trump a toutes ses chances?
Je ne crois pas qu'il peut gagner. Je ne crois pas qu'il va gagner.
Mais tu dis ça parce qu'il ne te plaît pas?
Non, je dis ça parce que c'est la réalité. Je crois que le New York Times a dit qu'il avait 21% de chances de gagner. Et normalement, le New York Times, avec cette statistique, c'est toujours correct. Mais la campagne de Hillary, je comprends pourquoi les gens détestent Hillary. Aussi, les gens détestent les femmes qui ont beaucoup de pouvoir. Pour quelque chose, il y a une corrélation avec les femmes. C'est tout à fait l'argent. Notre système est rompu et c'est pour l'argent. Il nous faut beaucoup plus d'éducation dans ce monde, ici aux États-Unis. C'est ça le problème, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Et c'est ça, c'est une vote entre les gens qui ne savent pas vraiment, ils savent ce qu'ils voient à Fox News. Et ça, c'est une version de l'histoire. Mais le CNN aussi, c'est d'autres versions de l'histoire.
Porque te lo lavamos gratis y con beneficios exclusivos al ser cliente de Fields BMW.
En Floride, dans les années 80 et 90, il y a eu de grandes vagues d'immigration venues de Cuba et du Nicaragua, et généralement, ces gens se sont rangés du côté des républicains. Mais au fil du temps, les populations se sont davantage mélangées et les nouveaux venus se sont divisés entre républicains et démocrates. L'espagnol est devenu langue officielle comme l'anglais, et aujourd'hui, les latinos ont tendance à vouloir devenir indépendants. Ricardo Rodriguez, cubano-américain comme il dit, architecte, impliqué dans les affaires municipales, est au fond de lui républicain. Mais aujourd'hui, il ne sait pas pour qui il va voter. Trump est trop populiste et Clinton trop arrogante.
We are facing some election choices this coming.
Nous sommes face à un terrible choix pour novembre, car nous sommes à un moment crucial pour un grand changement dans notre pays. Mais je dirais que 70% de l'électorat est divisé. Par exemple, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un bon emploi. Je suis qualifié avec 20 ans d'expérience et c'était très compliqué de trouver un travail bien rémunéré. Et dans le même temps, je vois tant d'argent dépensé pour ceux qui ne bossent pas. Beaucoup de gens ont décidé de ne pas travailler, et alors moi je dois payer pour eux. Ils ont 3, 4, 5 enfants, pas de job. C'est un poids très lourd pour notre système, et les gens comme moi ne veulent plus de cela. Nous voulons un pays. Je préfère un pays productif, où les gens travaillent, avec moins de personnes sous la sécurité sociale, car le système actuel pousse finalement beaucoup d'Américains à ne rien faire et à profiter de ce système de protection sociale. On maintient, voire on augmente la pauvreté et les crimes. On a bien un président noir, et s'il a pu arriver à ce niveau, pourquoi les autres ne peuvent pas aussi réussir? Pourquoi pas? Aujourd'hui, aucun des candidats ne peut répondre à mes attentes. Le pays doit faire face au pire, à des gens qui sont corrompus, qui sont des voleurs. J'ai une très mauvaise opinion d'Hillary Clinton. Et l'autre, c'est un clown. Donald Trump, il est incapable de faire le job. J'ai une piètre opinion de lui. Quant à Hillary Clinton, elle est arrogante, suffisante, froide. Et elle est corrompue. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire en novembre. Regardez en 2002. Bush a été élu grâce au vote du comté de Miami-Dade. Ensuite, c'est John Kerry qui a perdu les élections, car il n'a pas gagné le comté de Miami-Dade. Croyez-moi ou non, la Floride est l'État qui décide du président. Et aujourd'hui, personne ne sait comment on va voter. La Floride n'est ni républicaine ni démocrate, mais on sent maintenant la montée des indépendants comme le reste des États-Unis.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture. Clinton, Trump, deux mal-aimés vers la Maison-Blanche. C'était un reportage signé Nadine Epstein, réalisé par Annie Brault. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, l'historien François Durper et l'écrivain Sofiane Al-Sabag. Vous êtes plutôt spécialiste de la droite américaine. Mais on va commencer avec vous deux par une petite discussion quand même autour du système électoral américain qui est très particulier. Et là, on entend les électeurs, parfois certains sont indécis comme cet architecte. Il faut dire qu'ils vont aller voter, bien sûr, mais ils ne vont pas aller voter directement pour le président des États-Unis. Enfin, c'est un suffrage indirect, on élit des grands électeurs. Sofiane Al-Sabag, ça se passe finalement comment ?
Alors évidemment, c'est très très important de rappeler qu'aux États-Unis, les règles de l'élection présidentielle sont très différentes des règles françaises. Aux États-Unis, on n'a pas une circonscription dans laquelle il faut remporter 50% des voix. On a 50 circonscriptions dans lesquelles il faut remporter 50% des voix, mais dans chaque circonscription. Donc c'est très très différent.
50 États en fait.
Absolument. Et donc, dans ces circonstances, ce qui compte, c'est pas d'avoir 51% du vote à l'échelle nationale, mais bien de rassembler une majorité de grands électeurs qui représentent proportionnellement chaque État au sein de ce qu'on appelle le collège électoral. Mais ce collège électoral, c'est vrai, c'est une élection indirecte, mais il faut bien comprendre que ce sont, pour faire simple, des pions. Chaque grand électeur de la Floride, par exemple, il y en a 29 pour la Floride, est obligé de voter comme leur ont indiqué les électeurs de l'État.
Donc si ce sont les démocrates qui remportent la Floride, ils voteront tous forcément pour Hillary Clinton.
Tout à fait. Il y a des cas historiques où effectivement il y a des maverick electors qui ne respectent pas le vote des électeurs, mais c'est très très rare et effectivement dans la pratique, si la Floride est remportée à 51% par Clinton, les 29 grands électeurs de la Floride iront pour Hillary Clinton.
Alors, est-ce que c'est vrai, François Durpert, que la Floride est l'État qui décide du président des États-Unis? On se souvient qu'il y a eu un précédent dans les années 2000 avec l'élection de Bush, mais est-ce qu'on peut le dire de façon aussi, aussi cash?
Là, vous aviez un habitant de la Floride qui défendait son État. Si vous aviez fait le reportage dans l'Ohio, à Columbus, par exemple, on vous aurait dit, mais ici, c'est l'État average moyen, ni nord, ni sud, ni est, ni ouest. Il y a le même pourcentage de minorités dans l'Ohio que dans le reste des États-Unis. Donc, c'est ici qu'il faut venir faire les reportages, car nous décidons du président des États-Unis dans l'Ohio. Tous les États ne peuvent pas dire la même chose. On va pas vous dire, par exemple, en Californie ou dans l'État de New York, qu'on décide du président américain, parce qu'on sait que la Californie et l'État de New York sont des États bleus qui vont voter pour les démocrates. Faire un reportage dans le Dakota du Nord ou du Sud, on sait déjà que ce sont des États rouges. Donc il y a quelques États, ça dépend des années, et là on est en train de regarder, de scruter 11 États qui sont des États en balance, qui sont swing, qui sont purple state et qui peuvent, mais vous avez cité 2000, c'était la Floride, mais ce qui est très intéressant dans le reportage.
Oui, parce qu'en l'an 2000, on peut rappeler juste d'un mot, donc c'était Al Gore qui aurait dû gagner et puis...
Enfin, qui aurait dû gagner et qui a perdu de quelques voix la Floride et du coup qui a perdu l'élection américaine. Et ce qui est très intéressant dans le reportage de Nadine Epstein, c'est que au-delà de la question du système, c'est l'incertitude de cette élection. C'est une incertitude parce que vous savez, en France, on débat pas beaucoup sur les sondages. On dit voilà, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, etc. Mais aux États-Unis, là, vous avez entendu des gens et on débat sur qui va voter, par exemple. Quelle est la validité des sondages dont on est en train de parler? Par exemple, pendant l'été, on a dit Trump a décroché, mais est-ce que vraiment c'était des gens qui allaient aller jusqu'au bout de leur intention? Là, qui sont les gens qui vont voter? On voit en plus qu'on a un certain nombre de démocrates, notamment dans la Rust Belt, donc pas l'endroit où vous étiez, dans le nord-est des États-Unis, qui sont peut-être des Trump démocrates,
des démocrates class, qui vont vouloir voter contre Trump.
Comme il y avait effectivement les Reagan Democrats, des gens qui sont issus de la classe ouvrière qui vont voter plutôt pour Donald Trump, comme vous avez, et là c'est plutôt nouveau, des Republicans Clinton, des Clinton Republicans qui vont peut-être voter pour Hillary Clinton parce qu'ils sont vraiment perturbés par le personnage
de Donald Trump
et par ses discours.
Oui, une question de Nadine Epstein.
Le fait qu'il semble y avoir énormément d'indécis, est-ce que ça c'est un élément important? On sait que pendant la primaire, par exemple, Donald Trump a axé sur, il visait de toucher les gens, soit qui ne votaient pas, soit justement qui hésitaient. Est-ce que là, ça va être un élément de campagne pour l'un et l'autre?
Non, c'est fondamental. Il faut rappeler les chiffres là encore. En 2012, on estimait qu'il y avait, avant le vote, 5 à 10% d'indécis. En 2016, les chiffres ont quasiment doublé. On estime qu'il y a entre 15 et 20% des Américains qui, aujourd'hui, sont sûrs d'aller voter, mais ne savent pas pour qui. Et donc, à partir de là, il y a une incertitude qui est propre à rebattre totalement les cartes de cette élection présidentielle. Puisque François l'a dit, il y a des Clinton démocrates, il y a des Clinton Republicans et il y a des Trump démocrates. La question, c'est qui va l'emporter à ce petit jeu de « je pique des électeurs à mon adversaire ». Est-ce que c'est Trump qui voit qu'effectivement, la campagne de Bernie Sanders a fait très mal à Hillary Clinton et elle n'arrive pas à fédérer son camp? Ou est-ce qu'à l'opposé, on a tellement de républicains qui sont repoussés par les arguments de Donald Trump qui iront jusqu'au point de voter pour Hillary Clinton? Et ça, on pourra répondre à cette question que le 8 novembre. Est-ce qu'il y a une grande incertitude à ce sujet?
Et quelle incidence a le fait que des gens votent pour les indépendants, les outsiders?
Alors, non, très peu
Gary
cette année.
Gary Johnson, par exemple.
Vous avez parlé de Gary Johnson, vous avez parlé de Jill Stein. Lorsque dans l'histoire américaine, des candidats ont joué un rôle, c'était le cas de Ross Perot dans les années 90, ces candidats avaient beaucoup d'argent pour faire campagne. Là, ils ont très peu d'argent pour faire campagne. Et on peut penser qu'il n'y aura pas d'incidence sur le vote final. Mais un deuxième aspect très intéressant de mon point de vue du reportage, c'était de montrer à quel point ces deux candidats sont mal aimés. Ce qu'on nous, avec Sofiane, on regarde dans les sondages, vous l'avez rencontré aux États-Unis. Ce qu'on voit dans les sondages, c'est que l'écart entre ceux qui sont satisfaits et ceux qui sont insatisfaits, il est pour Trump de 19 et pour Hillary Clinton de 14. C'est-à-dire que vous avez 14 points de plus d'insatisfaits que de satisfaits. Du côté Clinton, 14, du côté Trump, 19.
Donc et il est un pour tout petit peu moins bien aimé qu'elle, mais à peine. Quoi,
mais
c'est
oui,
ça.
Puis pour ouais. des raisons très très différentes, et c'est ça qui est intéressant, au-delà de l'opposition droite-gauche classique, là vous avez une opposition trop politique du côté de Clinton. On dit elle est trop politique, elle est, vous savez, on dit elle est corrompue, le problème des emails, le problème de Benghazi, les responsabilités qu'elle a occupées, le problème de sa fondation, les conflits d'intérêts, parce qu'elle est trop politicienne, et l'autre il ne l'est pas assez, il est crazy, c'est un clown, oui, il n'est pas suffisamment politique pour peut-être être président.
Mais pourquoi il apparaît aussi comme clean, entre guillemets, c'est-à-dire que bon, finalement c'est un homme d'affaires, et puis il a bien fait ses affaires, or c'est pas le cas.
Oui, non, peut-être clairement. Que Sofiane Al-Sabag.
Voilà, clairement, vous avez la marque Trump qui joue. C'est-à-dire que Trump fait campagne sur le fait que je ne suis pas un politicien, je suis un businessman, je sais gérer une entreprise, donc je saurais gérer un pays.
Pourtant, il y a quand même des doutes parfois sur son empire. Hein.
Non, bien sûr, il y a des doutes à ce sujet. Et effectivement, le fait est que les politiciens ont au moins ce mérite de rendre publiques toutes leurs feuilles d'impôts. C'est une tradition aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Et Donald Trump, cette année, s'y est totalement refusé. Ça fait plusieurs mois qu'on lui demande de faire la transparence à ce sujet. Il s'y refuse. Donc, on a entendu dans votre reportage quelqu'un qui vante les mérites de Trump, qu'il n'est pas corrompu, etc. En tant qu'homme politique, c'est vrai, puisqu'il n'a pas de carrière. Mais en tant que businessman, il n'a jamais voulu nous répondre.
François Durper, là, sur cette image de Trump.
Peu importe, parce qu'il l'a dit, il l'a exprimé de manière très claire dans la campagne. Vous vous souvenez de cette phrase quand il disait « Je peux aller sur la 5e avenue, descendre deux ou trois personnes et j'aurai exactement le même nombre d'électeurs. » Vous voyez à quel point le cynicisme, Donald Trump, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il défend l'idée qu'il faut casser le politiquement correct. Ça a été, vous l'avez rencontré plusieurs fois, Dani, des gens qui ont dit « il parle vrai ». Il parle. Donc, finalement, les critères pour Hillary Clinton, puisqu'elle est dans le politiquement correct, il faut qu'elle le soit jusqu'au bout. Donc, si on lui trouve des casseroles, eh bien, elle doit assumer. Donald Trump n'a jamais dit qu'il n'avait pas de casseroles. Et donc, lui, regardez, par exemple, il a menti sur son passé militaire. Combien d'heures la presse américaine est restée sur le mensonge sur son passé militaire? 24 heures. Hillary Clinton, elle traîne l'affaire des emails depuis le début de la campagne.
Mais alors, justement, est-ce que, finalement, pour Hillary Clinton, c'est un bien pour elle qu'elle ait un adversaire comme Trump?
Et oui, c'est peut-être... Alors, évidemment, ce qu'on dit là pourra paraître ridicule si le 8 novembre, Donald Trump l'emporte. Mais peut-être pas tant que ça, même s'il l'emporte. Parce que probablement, dès maintenant, on peut dire que c'est probablement le candidat républicain le plus facile pour Hillary Clinton, pour une raison simple. Je prends un exemple, et vous êtes en Floride. Donc en Floride, vous avez pu voir des English Dominant Latino Voters, les votants latinos qui parlent anglais, qui sont citoyens américains, qui ne connaissent pas de migrants autour d'eux, et qui disent Hillary Clinton, on ne l'aime pas beaucoup. Sauf que face à Donald Trump, ils vont quand même voter Hillary Clinton. S'ils avaient eu le choix entre Marco Rubio et Hillary Clinton, ou entre Jeb Bush et Hillary Clinton, voire entre Ted Cruz et Hillary Clinton, ils auraient probablement choisi le candidat républicain.
Finalement, alors, ce qui est un peu comme toutes les élections, on rejette souvent quelqu'un plutôt que de voter pour quelqu'un.
Plus peut-être que d'habitude.
Justement, pouvoir parler du vote des minorités, notamment hispaniques, puisque là, c'est en Floride et ça se porte particulièrement à ce thème. Sofiane Al-Sabag, est-ce que Trump doit ouvrir son électorat et son discours vis-à-vis de, au moins, la minorité hispanique? On sait qu'il a été très dur dans ses discours sur l'immigration, Nadine l'a rappelé, il disait qu'il voulait expulser les entre 11 et on ne sait pas combien de millions d'immigrés aux États-Unis.
Alors ça, c'est le pari de Trump. Et c'est un pari qui, historiquement et démographiquement, est tout à fait extraordinaire. Donald Trump fait le pari qu'en assemblant une coalition d'électeurs blancs, protestants, âgés, masculins, il va réussir à l'emporter. Et c'est un pari qui, au regard du collège électoral dont on parlait tout à l'heure, paraît valide, puisqu'il peut trouver suffisamment de grands électeurs dans ces états de la Rust Belt, dont on a parlé tout à l'heure, qui, au nord-est, contiennent beaucoup de ce qu'on appelle les Reagan-démocrates, c'est-à-dire cet électorat col bleu, ouvrier, traditionnellement syndiqué, qui vote plutôt démocrate,
mais anti-establishment
qui
en ce moment,
proposé,
qui a peur,
qui a démontré une certaine, je dirais, attirance pour le vote Trump. C'est la même attirance qui a conduit d'ailleurs ses électeurs à favoriser Bernie Sanders plutôt qu'Hillary Clinton lors de la primaire démocrate. Le pari de Trump, le problème, c'est que en 2016, vous avez près de 30% de l'électorat qui est issu des minorités, qu'elles soient noires, hispaniques, asiatiques, etc. Donc en face de ça, il reste 70% de blancs et il lui faut remporter ces 70% de blancs pour espérer être élu. Et juste pour comparer, rendez-vous compte qu'en 1980, Ronald Reagan a très largement remporté l'élection présidentielle avec 62% du vote blanc masculin. Très largement.
François Durper, sur les minorités.
En 2012, Romney gagne le même pourcentage, 62% du vote blanc et masculin, et il perd très largement face à Obama. Il y a une tendance démographique qui fait que le pari de Trump est extrêmement risqué. Et aujourd'hui, ce n'est pas 62% d'électeurs blancs qu'il lui faut gagner, mais bien plus, sans doute 70%.
Parce que le poids démographique des minorités augmente.
Augmente. Dans l'État que vous avez visité, Nadine, c'est un État majorité-minoritaire. Minorité-majoritaire. Il y a plus de minorités assemblées que de majorités. C'est valable dans 5 États aux États-Unis, des gros États. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils votent démocrates. Parmi ces États minorités-majoritaires, le Texas est un État qui est encore rouge. Mais pour combien de temps, si le Parti républicain continue à mettre de côté ces minorités ? Parce que moi, je trouve que la stratégie de Donald Trump est une stratégie qui n'est pas si sûre d'elle. Parce que il avait commencé en disant au stratège qui lui disait il faut absolument pas continuer à insulter les Mexicains comme vous le faites. Il a dit non, ce que vous dites est valable dans 8 ans, on ne pourra gagner les États-Unis qu'avec les minorités. Là, ça va se passer. Moi, je vais plutôt aller chercher cet électorat blanc, cette rage de l'électorat blanc, ce que le prix Nobel de 2015 désignait, vous savez, cette catégorie de blancs défaits par la mondialisation et qui voit sa mortalité augmenter. Angus Deaton, j'avais oublié son nom. Et donc là, il est allé il y a quelques heures dans une église afro-américaine à Detroit.
Donald Trump.
Donald Trump. Il est allé voir Peña Nieto au Mexique, le président mexicain. C'est quand même assez étrange parce que c'est un président qui est très impopulaire. On voit pas quel type de voix il peut espérer en se mettant derrière Peña Nieto. D'ailleurs, c'est les deux, Peña Nieto qui accueille Donald Trump, c'est aussi une opération politique absolument désastreuse pour sa propre popularité. Donc, sa stratégie n'est pas si assurée, puisqu'il essaie maintenant de faire des appels du pied. Moi, je crois que ce qui est plus fondamental, c'est quand même le message que porte Hillary Clinton et Donald Trump. Il y a quand même du contenu dans cette campagne électorale. Et Donald Trump, lui, développe un nationalisme d'exclusion. Une vision de l'Amérique. Quelqu'un a dit les pionniers blancs, cette Amérique des westerns, cette Amérique... c'est pas ce que porte Hillary Clinton. Et vous avez vu, la convention, elle a mis en avant un couple des Khan, qui parlait de son fils mort en Irak. Leur fils et les Khan sont originaires du Pakistan. Lui, le fils est né dans les Émirats Arabes Unis. Et ils ont dit à Donald Trump, si vous aviez été président, nous ne serions pas américains. Notre fils n'aurait pas pu se sacrifier pour ce beau pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Et donc, ce nationalisme d'inclusion a fait décrocher Trump pendant plusieurs semaines. Là, on revient sur les sondages d'avant la convention. Mais si vous voulez, l'intelligence, pour le coup, d'Hillary Clinton, a été d'opposer au nationalisme d'exclusion, au patriotisme d'exclusion, un nationalisme d'inclusion, petite leçon à l'usage des candidats qui, en Europe, voudraient battre les populistes, et non pas de se présenter comme la candidate du monde, la candidate de la mondialisation, face au candidat de la nation américaine qui veut que, à nouveau, l'Amérique soit grande. Et Hillary Clinton en particulier a dit « C'est vous qui n'êtes pas patriote, monsieur Donald Trump, vous qui dites que l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus la première puissance du monde. Si l'Amérique est la première puissance du monde, et donc vous avez une assistante
qui dit « USA, USA, on va gagner tous ensemble. »
Donc deux nationalistes qui se font face, et la réponse évidemment
une question
le 8
Nadine.
Novembre.
Juste un petit mot sur cet électorat que vise Trump. On note quand même que, par exemple, quelqu'un comme David Duke, qui était quand même un ancien président du Ku Klux Klan, a rejoint l'équipe de Trump.
Sofiane, c'est pas grave, c'est rapidement parce qu'on
encore une fois, je pense que ça participe de la radicalisation du Parti républicain qui, depuis une trentaine d'années, se déporte toujours plus vers la droite, porté par des élites qui sont soumises un système financier dans lequel voilà, l'argent entre littéralement de façon illimitée dans les campagnes, c'est vrai depuis 2010 et un arrêt de la Cour suprême, et puis une base qui effectivement de plus en plus l'occasion de s'exprimer est biaisée par rapport à ces sources d'informations et notamment Fox News dont on a entendu parler dans le reportage. Donc à partir de là, vous avez un candidat qui ressemble très fortement à ce qu'est le Parti républicain aujourd'hui. Ce n'est plus le parti de l'immigration, ce n'est plus le parti du business, c'est un parti nationaliste, nativiste, qui se retrouve avec Donald Trump.
Juste une seconde, pas tout le Parti républicain,
pas
peut-être
tous, évidemment.
Parce qu'une des grandes questions des dernières semaines, c'est jusqu'à quand le Parti républicain va faire campagne pour Donald Trump. Vous avez vu que les levées de fonds, là, se font sur les gouverneurs, sur l'élection pour les gouverneurs dont on n'a pas parlé, et pour les sénateurs et les représentants. Peut-être 96 Bob Dole, le Parti républicain, qui ne fait plus campagne pour Bob Dole parce qu'il a perdu,
absolument,
et qui fait campagne qu'en se disant c'est le Congrès qui va s'opposer à Hillary Clinton.
Qui vont arriver juste enfin, en même temps que l'élection présidentielle, d'ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux. On aurait pu bien sûr parler aussi du poids des médias, enfin, on voulait l'évoquer, hein, qui est crucial dans cette campagne électorale, une émission à part entière. Merci donc à vous, François Durper, Sofiane Al-Sabag, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction, signé par Nadine Epstein, réalisé par Annie Brault, à la technique ce soir, Jean Frédérics. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, la podcaster pendant un an, la commenter sur notre site franceculture.fr.